Chapitre 3. À la fin, Glafira se lassa de se faire poursuivre à travers Pétersbourg par son vieux mari. Elle renonça aux rendez-vous donnés à l'opéra ou ailleurs et se décida à recevoir ses amis chez elle. Or, l'excellente femme d'Ivan Andreïtch, Chabrine, avait 6 amis ou, pour parler plus franc, 6 amants. Faut bien se reposer le 7e jour, Dieu lui-même. Bon, ajoutons qu'elle les avait choisis parmi l'élite pétersbourgeoise. D'ailleurs, nous en tiendrons aux 2 élus que le lecteur connaît déjà, Alexei Pietrovitch Torogov et Mikhail Padovitch Bobiditsyn. Ces 2 jeunes gens, très différents l'un de l'autre, donnaient, pour le dire, les 2 notes extrêmes de l'octave de Glafira. L'un, Torogov, était toute la douceur, tout l'esprit, tout le dandysme. Mais je crois qu'il veillait surtout de mine très joli garçon, fine moustache bien cirée, des cheveux coupés à la mode, vous savez, sur le front, et la bouche en cœur. On dit aussi en cul de poule, comme il vous plaira. Bobiditsyn, au contraire, l'homme à la grosse voix, était beaucoup moins décoratif. Un gros et grand gaillard, sans nulle grâce, un peu bourru et parlant peu. J'estime qu'il devait agir davantage. C'était un garçon solide, extrêmement vigoureux. Ivan Andreïtch ne s'en aperçut que trop, mais n'anticipons pas. Glafira avait calculé qu'elle serait, tout compte fait, plus libre chez elle, du moins une fois qu'elle aurait réussi à donner définitivement le change à Ivan Andreïtch, car qu'il la surveillait, qu'il l'épia, elle n'en doutait point. Elle le haïssait, le méprisait étrangement, quand il lui arrivait de penser à lui. « Mon poulet, lui annonça-t-elle un matin, je ne sors plus, j'ai assez du monde, la vie d'intérieur, voilà ce qu'il me faut. »« Oh, oh !» dit Ivan Andreïtch avec une profonde admiration. « Vois-tu, comme cela t'étonne, bien tu m'as toujours méconnu. » « mais non !» protesta Ivan Andreïtch, qui ne savait trop s'il devait se réjouir ou s'attrister de se lever d'une nouvelle lune. « Mais, ma chérie, il te faut des distractions à ton âge. » « Au point du tout, toi seulement, coco chérie. Oh, oh, oh !» Ivan Andreïtch n'en croyait pas ses oreilles. « Écoute, cocotte, oh, ne m'appelez pas comme ça !» dit Madame Chabrine avec dignité. « Bien, bien !» Les attitudes dignes de sa femme avaient toujours eu sur Ivan Andreïtch un effet irrésistible. Il se hâta de changer de ton. « Eh bien, ma chère, je ne puis te dire à quel point ta résolution me comble de joie. Jamais, certes, je ne t'avais reproché de te ressortir, non ?» La dame rit à gorge déployée. Ivan Andreïtch s'inquiéta. Pourtant, il évita de la questionner au sujet de ce rire. « Mais je craignais, reprit-il, que tout cela ne finit par te fatiguer. » Elle se pâmait. Ivan Andreïtch, très déconcerté, la regardait se rouler sur le divan où elle était assise et se sentait horriblement lâche devant cette hilarité énigmatique. Il avait des sueurs froides dans le dos et il lui semblait que ses cheveux se hérissaient sur sa tête. « Enfin, ma chère » éclata-t-il tout à coup, mais aussitôt il se calma. Glafira avait cessé de rire et le considérait affixement. « C'est-à-dire, non, je suis bien aise que tu ris, et moi aussi je ris. Ta décision me rend si heureux. » « Alors vraiment, tu es dégoûté des bals et des concerts. »« Absolument. Je te dis, coco, que je ne veux plus que toi. » Une nouvelle crise de rire. Ivan Andreïtch fronça le sourcil. Mais ce n'était même pas une velléité de révolte, c'était purement nerveux. « Je trouve cela exagéré, » dit-il toutefois avec gravité. Et puis on jaserait. Tout Pétersbourg chanterait que je séquestre ma femme. Enfin, tu périrais d'ennui. Avec toi, Coco? Oh, non. Oh, moi, tu ne pêches pas par ta fatuité, toi. Ivan Andreïevitch prit le parti de sourire affectueusement. Il continua. Même avec moi, ma bonne amie. Oh, je ne veux certes point te forcer à sortir, mais il faut voir le monde. Si tu ne vas plus chez les gens, au moins reçois-les. Non, s'écria Glafira en affectant un air grave qui dissimulait mal sa démangeaison de rire. La vie intérieure, la solitude. Ben, je t'en prie, ma petite amie, la princesse Holkhorov, jamais. La générale, jamais. Écoutez, il y a quelques personnes que je consentirais à voir encore, mais je suis sûr que celle-là vous déplairait. Vous êtes un tel tyran. Je préfère ne pas insister. Comment, ma petite amie, comment peux-tu dire que je suis un tyran? Ivan Andreïevitch donnait toutes les marques d'un abattement profond. D'ailleurs, continua Glafira, vous-même me déplaisez à ces gens. Il y aurait des conflits. Vous êtes si irascible, si violent. Ah, si vous me promettiez de ne jamais vous montrer. Comment, ma petite amie, mais certainement, comme tu voudras. Je me montrerai pas, comme tu voudras. Mais pourrais-je savoir? Oh, certainement, monsieur Bobnitsyn. Oh oui, fit Ivan Andreïevitch comme si on venait de lui marcher sur le pied. Hein? Qu'avez-vous? Oh là, ma petite amie. Monsieur Bobnitsyn, certainement, un charmant garçon. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Bon, qu'est-ce que je dis? Ah, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que j'ai. Oh, comme il te plaira. Monsieur Polyeneff. Aïe! Qu'est-ce encore? Rien, rien, monsieur Polyeneff aussi. Oh oui, certainement. Monsieur Bobinitsyn, monsieur Polyeneff, monsieur Tologoff. Aïe, aïe! Ah ça, mais qu'avez-vous donc? On dirait que chacun de ces noms a des épines pour vous. Oh, comment non, 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 pas du tout. C'est-à-dire, oui, monsieur Bobinitsyn, monsieur Polyeneff et monsieur Tologoff. Et monsieur Berseneff, et monsieur Niutski, et monsieur Orsadov. Ivan Andreïtch se laissa tomber sur un fauteuil. Il contemplait sa femme avec une stupeur admirative. Tout à coup, son visage s'éclaira, et en somme, il n'était point fâché de pouvoir surveiller ces gens-là sans courir. Oui, reprit-il, ça te fera du monde. Et quel jour recevras-tu? Oh, les 6 jours de la semaine, déclara catégoriquement Jaffira en tenant à grand-peine son sérieux. Les 6 jours de. Oh! Oui, et dès aujourd'hui, je vais essayer des lettres. Vous daignerez ne pas oublier qu'on ne doit point nous voir. Cependant, ma petite amie, essaya de protester timidement Ivan Andreïtch, mais un geste impérieux lui imposa silence. À quelque temps de là, Glafira avait chez elle, dans son petit salon boudoir, M. Bobinitsyn. De la porte, à la serrure de laquelle Ivan Andreïtch avait l'oreille collée, il entendit cette conversation. Non, Mihail Pavlovitch, oh, je ne croirai jamais cela. Il est défiant, soupçonneux, jaloux. Et poltron, dit la grosse voix de Bobinitsyn. Et poltron aussi, peut-être, mais je ne le crois pas si débauché. De qui parle-t-il? Se demanda Ivan Andreïtch. Mais c'est comme cela. On l'a surpris sous le lit de la jeune femme. 4 vieux fonctionnaires perdus de rhumatisme. Oh, canaille! Mais savez-vous, fit la voix claire de Glafira, que si cela était prouvé, cela me donnerait tous les droits contre lui. Et les représailles. Certes, madame, tout Saint-Pétersbourg admire votre fidélité envers un homme qui a vu et au-dessus de tout le monde vous trompe indignement. » Ivan Andreïtch entendit un petit éclat de rire aussitôt étouffé, mais ce qu'il ne put entendre, ce furent ces paroles que Bobinitsyn dit tout bas en se penchant vers Glafira. « Écoutez, finissons-en. Ce rôle m'ennuie, je ne suis pas venu ici pour jouer la comédie. Croyez-vous qu'il soit derrière la porte ?»«
Oh, n'en doutez pas, » répondit Glafira sur le même ton.
« Alors je vais lui écraser le nez, » dit Bobinitsyn en se levant.
« Non, 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 pas encore. Je veux d'abord lui donner une leçon. »
Le chuchotement s'élevait. Ivan Andreïtch se demandait avec une immense inquiétude ce qu'on pouvait se dire tout bas. Tout à coup, la basse taille de Bobinitsyn résonna de nouveau.
« Oh, par exemple, madame, cela passerait les bornes.
Je parie. »
« Ben, nous allons bien voir, » dit Bobinitsyn. Et soudain, Ivan Andreïtch entendit tout près de lui la voix terrible éclater comme un tonnerre.
« Non, » disait-elle, « oh, je ne crois pas qu'un homme d'honneur descende jamais jusqu'à écouter à une porte. »
Et aussitôt, Ivan Andreïtch, que d'ailleurs la peur paralysait, reçut sur le front, sur son vénérable front déplumé de faux fonctionnaires, la porte du boudoir de sa femme. Il poussa un hurlement de douleur et s'enfuit la tête dans ses épaules. Avant d'avoir atteint l'extrémité du corridor, il entendit encore la grosse voix dire d'un ton d'imperturbable gravité « Non, il n'y avait personne !» Puis un impitoyable éclat de rire de Glafira. Mais ceci n'est encore rien. Le plus grave accident marital d'Ivan Andreïtch, l'aventure scandaleuse qui défraya pendant 8 jours la Gazette pétersbourgeoise, eut lieu le lendemain même. Ce jour-là était le jour de M. Tologoff. Dans la matinée, le vieux mari, dont le front, si dans le cœur, n'avait pas encore oublié l'invalidable blessure qu'il avait reçue devant sa faction, s'était montré particulièrement désagréable. Il avait fait d'amères allusions aux visiteurs de Glafira. Enfin, elle avait pu comprendre qu'il soupçonnait particulièrement, avec une rancune spéciale, quel esprit pénétrant, M. Bobinitsyn. Il hasarda même de dire qu'elle ferait peut-être sagement de renoncer à recevoir tous les jours et qu'elle ferait mieux de prendre un jeudi ou un samedi en un mot de grouper ses relations. Glafira ne répondit point. Elle toisa dédaigneusement le bonhomme et, sans parler, sortit du boudoir où il était venu lui donner ses explications. Ivan Andreïtch, pensif, s'assit sur un large et profond divan que Glafira semblait affectionner, un meuble français qu'elle avait fait venir de Paris. Des ressorts très doux, capitonnés de velours épais, de larges franges soyeuses comblaient la distance entre le siège et le sol. Ivan Andreïtch s'abîmait dans ses pensées. Ni lui ni moi ne savons combien de temps il resta seul à méditer sur ses infortunes, sur les vicissitudes de sa vie de vieux mari, d'une jeune femme. Tant il y a qu'il était encore là, quand il entendit dans le corridor un pas d'homme puis une voix trop connue. On ne sait pourquoi la pensée de recevoir lui-même M. Tologoff fut insupportable à Ivan Andreïtch. Il se leva, considéra avec désespoir la fatale porte qui lui avait donné un si rude baiser, fit 2 ou 3 fois tour sur lui-même, avisa les rideaux des fenêtres, mais frémit aussitôt à la pensée qu'on pouvait trop aisément l'y surprendre. Et finalement, le bruit des pas s'approchant, se glissa avec l'aisance d'une vieille habitude sous le divan. Il était si troublé que dans le premier moment, il s'arrangea pour n'occuper que la moitié de la place. Mais bientôt, ayant tâtonné dans la nuit des franges, il s'aperçut qu'il était seul,
et cela lui fut une consolation. Il s'installa même et, par comparaison, trouva sa situation commode, presque agréable. Cependant, M. Tologoff s'assit sur le divan. « Veuillez attendre, Marine, elles seront bientôt là. » Et la fira ne se fit pas longtemps attendre. En la voyant entrer, Tologoff se lève, le sourire et le baiser aux lèvres, mais elle met un doigt sur sa bouche et dit d'un ton affable « Soyez le bienvenu, Alexei Petrovitch. Imaginez-vous que je cherche partout mon mari. » De la main, elle indique le dessous du divan. Tologoff ouvre de grands yeux, puis tout à coup, n'y tenant pas, tombe assis sur le divan, pouffrant de rire. Glafira fit chorus. « Mais, demanda Tologoff dès qu'il put parler, « avez-vous bien regardé sous les lits? Vous savez que c'est la retraite habituelle d'Ivan Andreïtch. Voulez-vous bien vous taire? Que dites-vous là? Je n'ai jamais cru un mot de cette absurde histoire. Ivan Andreïtch peut avoir des ridicules, mais je le crois incapable d'inconduite. Cette incrédulité vous honore. Pourtant, ne laissez pas de regarder sous le lit. Je vous le conseille. » Tologoff, en incitant ainsi, pensait servir les intentions de Glafira. Mais elle avait des projets plus lointains. « Non, dit-elle, en lui faisant une mine significative. Après tout, il peut être sorti, sans que je m'en sois aperçu. Causons, voyons. Quand est le prochain bal de Skorpulov ?»« Oh, dans une quinzaine, chère madame, irez-vous ?» « Oh, je ne pense pas. Vous savez que j'ai renoncé au monde. »« Quoi, à votre âge? Mais c'est un crime. Je me consacre à soigner mon mari. Il vieillit. Je ne puis me le dissimuler. Il a besoin de soins, d'affection. Car, je vous répète que je ne crois pas un mot des sottes histoires qu'on raconte. Il m'aime, je l'adore. Notre vie est une longue lune de miel. »
Ouais, quel charmant tableau, une idylle, quoi, et la fidélité réciproque.
Vous pouvez croire, monsieur Tologoff, qu'en ce qui me concerne, mais
certainement, nul n'est mieux en situation que moi pour jurer qu'il n'y a pas de plus précieuse femme. Il se pencha vers Glafira pour lui chuchoter à l'oreille un autre mot. De femme plus vertueuse, dis-je, que vous, chère madame. Oh, Ivan Andreïtch est un heureux coquin.
D'ailleurs, miaule Glafira, il a bien mérité son sort.
Un temps, les deux bourreaux étouffent de rire et mangent leurs mouchoirs. Oh, certes, tout Pétersbourg est unanime pour l'affirmer. Ivan Andreïtch n'a que ce qu'il mérite.
Un homme très savant,
c'est-à-dire tant il a de science que ce n'est plus un homme, c'est un puits.
Et il m'aime.
À ne pouvoir vous quitter. On compte qu'il vous suit quand vous sortez et vous demande sur son chemin à tous les dvorniks. C'est touchant, n'est-ce pas?
Un silence prolongé.
Les deux interlocuteurs ne peuvent plus parler. Ils ont assez à étouffer leur rire. Le divan tremble.
« Imaginez-vous, reprend Glafira un peu calmé, qu'il lui est arrivé hier un petit accident. Il a une grosse bosse sur le front. Alors je lui demande, « Mais où t'es-tu fait cela, Coco ?» Et il me répond, « Ce n'est rien, c'est contre un mur. » Ou contre une porte. Ou contre une porte, peut-être. « Vois-tu, lui ai-je dit, tu es trop distrait, tu es toujours absorbé dans des préoccupations de l'ordre plus élevé. Cela te porte malheur, à ton âge, à te cogner contre une porte. »
Contre un mur.
Non, lui ai-je dit, oh, je crois plutôt que c'est contre une porte. Mais sans voir à la forme de la bosse, avec tes distractions, tu te seras fait jeter une porte sur le nez.
Sais-tu, ai-je ajouté,
que je finirai par croire ce qu'on raconte et que par distraction encore, tu t'es oublié sous un lit ? Il a ri, le pauvre cher homme. Il a un si bon caractère. On peut lui faire et lui dire tout ce qu'on veut. Il suffit de savoir le prendre. Vous savez ce que c'est un père pour moi, Alexei Petrovitch.
Ah, un père, dit Dologov, en affectant un ton très grave. Mais il ne put en dire davantage, et cette fois s'étrangla un peu sans fond, en avalant dans un spasme un coin de son mouchoir. Sur cette entrefaite, la porte s'ouvre, et l'on annonce M. Bobinitsyn.
« Bonjour, Mikhail Pavlovitch. Quel heureux hasard !» dit Glafira en tendant la main à Bobinitsyn.
Elle vient de lui envoyer un mot pour le prier de venir.
« Monsieur Bobinitsyn et Monsieur Tologov, permettez-moi de vous présenter l'un à l'autre. Vous êtes faits pour vous entendre, étant tous deux de très galants hommes.
Bon, »« je crois déjà connaître monsieur, » dit Bobinitsyn en saluant sèchement. Tologov s'incline.
« Ne faites donc pas l'enfant, » dit Glafira tout bas à Bobinitsyn. « Vous savez pourquoi je vous ai fait venir. Il est là-dessous, » ajouta-t-elle en montrant le divan. « Nous allons rire, mais il faut être de bonne humeur. »
« Soit, » dit Bobinitsyn en tendant la main à Tologov. Glafira les fait asseoir sur le divan et prend place au milieu d'eux.
« Imaginez-vous, commence-t-elle, Mikhail Pavlovitch, que j'ai perdu mon mari.
Bah,
comment bah, c'est tout ce que vous trouvez à me dire pour me consoler ?
Mais vraiment, êtes-vous sûr ?
Je conseillais à madame, interrompit Tologov, de chercher sous les lits. Elle ne veut pas m'en croire. Et... Taisez-vous, mauvaise langue ! Dit Glafira en donnant au jeune homme une petite tape sur les doigts.
« Ah, oh, monsieur connaît aussi cette histoire ?» demanda Bobinitsyn.
Oui, oui, dit Tologov tout secoué de rire, « je la connais trop, j'étais là. »
En ce moment, on entend un léger bruit sous le divan. Les trois compères s'entre-regardent.
« Comment, Minoda Glafira, vous, Alexei Pietrovitch, avez-vous même qu'il n'y a pas de quoi vous en vanter ?»«
Voilà vous, j'étais en si mauvaise compagnie. Certes, je donnerais beaucoup pour voir votre vieux barbon. »«
Oh !» fit Glafira très choqué.
« Pardon, c'est Ivan Andreïtch que je voulais dire. » « Eh bien donc, je donnerais beaucoup pour le revoir dans la même position, sous un lit ou sous un divan. »«
Par exemple, sous un divan comme celui-ci, » confirma Bobinitsyn.
« C'est cela, c'est bien cela, sous un divan comme celui-ci, » dit Tologov en se baissant pour soulever les franges du divan. On entend un froissement sur le parquet.
« Imaginez-vous, » reprend Tologov, « que ce lit, sous lequel j'avoue que nous étions deux, n'était pas à beaucoup près aussi large que ce divan. Ivan Andreïtch se tenait sur le ventre. »« Oh, le malheureux !» soupira Glafira. « Mais non, c'est pas possible, je vous crois pas. »«
Pourtant, si monsieur était là, » insinue Bobinitsyn avec une pointe d'ironie.
« Imaginez-vous qu'un petit chien est venu lui manger le nez, oui, oui, comme cela !» dit Tologov en se mettant à genoux et en passant sa main sous le divan. « Le petit chien jappait, jappait furieusement comme ceci !»
Et Tologov se met à faire « ouh, ouh, ouh » en se penchant presque jusqu'à terre contre le divan. Glafira et Bobinitsyn pensent mourir de rire. Certes, c'eût été le moment pour Ivan Andreïtch de mettre fin à cette scène. Il ne pouvait plus douter que sa présence sous le lit fût connue. Il n'avait rien de mieux à faire que de se lever avec un visage extrêmement sévère, en homme qui, au moins chez lui, a le droit, comme on lui semble, de s'étendre sous les lits, voire même sous les divans.
Il aurait prié M. Bobinitsyn, M. Tologov, de vouloir bien sortir, et aurait envoyé Glafira chez sa mère. Mais Ivan Andreevitch était incapable de telles résolutions énergiques. Pour l'instant, d'ailleurs, la peur et la honte lui enlevaient tous ses moyens. Il ne put que se tenir quoi, espérant, sans trop y compter, que ses bourreaux se contenteraient de lui avoir fait peur et ne pousseraient pas plus loin leur cruelle plaisanterie. Tologov se rassied. Tout à coup, Babinitsyn cesse de rire. « Bon, il fait bien chaud ici, » dit-elle en clignant de l'œil à Glafira. « Si nous nous rapprochions de la fenêtre... » Glafira ne put répondre. Elle devina l'intention de Bobitsyn et le rire lui coupa la parole. « Parbleu, dit Dologov, ben transportons le divan près de la fenêtre. Madame y consent. » Glafira se lève sans mot dire. Tologov et Bobinitsyn prennent le divan par les deux extrémités et se mettent en devoir de le transporter à l'autre bout de la pièce. Glafira s'attend à voir son pauvre mari étendu par terre à la place qui devrait le laisser, que le divan laisse libre. Et que n'est pas son étonnement? Il n'y a personne. Seulement, on entend traîner par terre d'une façon interminante et saccadée, quelque chose qui doit être en jugé par le bruit à un talon de botte, peut-être deux talons. « Qu'est-ce donc ?» dit Babinitsyn. « Quel est ce bruit ? Madame, je crois que votre divan a besoin de quelques réparations. Il y a quelque chose de brisé. N'entendez-vous rien traîner ? Écoutez !» Et Babinitsyn, qui vraisemblablement tient le divan du côté où Andreïtch a la tête, se met à secouer le meuble comme un prunier. Tologov, n'en pouvant plus de rire, ouvre les mains. Le divan tombe, et avec le divan, le mari cramponné au-dessous. Un gémissement, puis quelque chose comme le heurt d'un crâne. Sans les épais tapis qui l'amortirent, le choc eût pu avoir de désastreuses conséquences. On releva le divan, sous lequel on trouva Ivan Andreïtch évanoui. Il va sans dire qu'après ce scandale, Ivan Andreïtch dut se séparer de sa femme, à laquelle il fut, par justice, obligé de faire une pension annuelle de 100 000 roubles. « La jalousie, ah, Othello n'est pas jaloux, » a dit Pouchkine. Cette observation dénote toute la profondeur d'esprit de notre grand poète. Othello, en effet, seulement troublé, parce qu'il a perdu son idéal. Mais il ne se cache pas, il n'épie pas, il n'écoute pas aux portes. Il est confiant. Il a fallu bien des insinuations, bien des piqûres d'épingle pour l'amener au soupçon. Un vrai jaloux n'est pas ainsi. On ne peut s'imaginer la honte morale et la bassesse où sombre sans remords un jaloux. Non pas qu'il ait nécessairement l'âme vile et banale, au contraire. Un cœur noble, un amour pur, un dévouement réel peuvent fort bien se cacher, sous les tables, acheter des limiers, épier, vivre dans cette boue de l'espionnage. Othello ne pouvait supporter la pensée même d'une trahison. Je ne parle pas de pardonner, supporter seulement. Pourtant, son âme est aussi naïve qu'une âme d'enfant. Ce n'est donc pas un véritable cas de jalousie, car il a bien des compromissions possibles avec la jalousie. Ce sont les plus jaloux qui pardonnent le plus vite, et les femmes le savent bien. Ils peuvent, après une scène d'ailleurs excessivement tragique, pardonner une trahison presque évidente, presque immédiate. Ils pardonnent les étreintes, les baisers qu'ils ont vus eux-mêmes, en se disant pour se consoler que c'est peut-être pour la dernière fois que le rival s'en ira pour toujours à l'autre bout du monde, ou bien qu'ils emmèneront la bien-aimée quelque part où elle ne soit plus exposée à le rencontrer. Il va sans dire que la réconciliation dure une heure, car le rival disparaîtrait-il, le jaloux en inventerait un second. Or, que vaut un amour qu'il faut épier, espionner? Mais un vrai jaloux ne comprendra jamais cette question.